Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La violence, comme la terreur, semble se perpétuer au Moyen-Orient, de l'Afghanistan à la Libye, de l'Irak au Yémen, sans occulter la Syrie ni l'espace israélo-palestinien. Cette propagation, qui s'est amplifiée depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, semble créer sans cesse de nouveaux avatars, Al-Qaïda et maintenant Daesh, l'État islamique. Comment, dans un tel contexte, préserver les libertés publiques et privées? Comment maintenir un état de droit et surtout, désormais, mais comment reconstruire sur des cendres terroristes encore fumantes? La liberté sous la terreur, c'est une émission en forme de débat qu'Orient Hebdo a enregistrée en public au Théâtre de la Criée à Marseille à l'occasion des 24e rencontres Averroès. Loulwa Al-Rachid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, chercheuse, et vous travaillez plus particulièrement sur l'Irak et le baasisme autoritaire. Et vous avez longtemps été docteur associé au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po à Paris. Et puis Mohamed Ali Attassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, documentariste. Vous animez d'ailleurs à Beyrouth, au Liban, une structure qui aide de jeunes réalisateurs, documentaristes à faire des films, etc. Et puis vous êtes aussi l'un des 99 signataires d'une pétition, c'était en l'an 2000, en Syrie. Alors, Loulwa Al-Rachid, on commence peut-être avec vous. Diriez-vous que cette région moyen-orientale a toujours été le théâtre de régimes de terreur, et cela bien avant Daesh ?
C'est un peu délicat. C'est une région où la terreur, en fait, a emprunté différents visages. Il se trouve que le visage que l'on connaît le mieux aujourd'hui est celui, parce qu'il s'exporte chez nous, dans les sociétés européennes, dans les sociétés occidentales, c'est le visage de la terreur djihadiste. Mais je dirais que bien avant cette terreur djihadiste, il y avait une forme de terreur à laquelle on ne faisait pas vraiment attention, qui est la terreur autoritaire, la terreur des dictatures qui ont présidé aux destinées de cette région, de l'ensemble de la région, que ce soit les pays du Levant ou d'Afrique du Nord. On a eu une forme de violence qui était liée à l'autoritarisme politique, à une forme d'autoritarisme qui est restée inébranlable jusqu'à l'éclatement des printemps arabes en 2010-2011.
Mais est-ce que cette terreur que l'on constate aujourd'hui, elle a été importée plus récemment, je pense à l'Irak par exemple ?
Avant 2003, avant l'invasion américaine, avant le renversement du régime de Saddam Hussein, il y avait des formes de violence extrême dans l'Irak contemporain. Cette violence était liée au dysfonctionnement de l'ordre politique, à la répression exercée par le régime contre toute forme de dissidence, contre toute forme de différence au sein de cette entité irakienne. Les Kurdes en avaient fait les frais, bien entendu. On a tous en tête le gazage du village de Halabja en Irak en 88. Il y a eu des formes de violence extrême à l'égard de toutes les oppositions. Et là, j'aimerais souligner le fait que le régime de Saddam, aujourd'hui, on caractérise comme un régime sunnite ayant dominé ou ayant réprimé les chiites. La violence à cette époque-là, avant 2003, s'abattait de façon indiscriminée sur l'ensemble des forces politiques qui étaient opposées au régime en place ou qui exigeaient une autre forme, d'autres modalités de gouvernement. Donc le régime a déployé des formes extrêmes de violence. Avant 2003, le régime de Saddam a été responsable de deux grandes guerres régionales. La guerre Iran-Irak, bien entendu, qui a fait 500 000 de morts en Irak. Il a été aussi à l'origine de l'invasion du Koweït et de toute la destruction qui s'est abattue sur l'Irak en 1990-91. Il y a eu la violence, et on l'oublie, la violence des sanctions économiques, de l'embargo pétrolier qui a été imposé par les Nations Unies à l'Irak entre 1990 et 2003. Donc l'Irak est un pays qui a connu des formes extrêmes de violence. C'est, je dirais, une société brutalisée, une société qui, depuis 1980, n'a jamais connu une normalité. Les conjonctures guerrières, les conjonctures routinières, en fait, se mélangeaient. On pouvait passer du jour au lendemain à la guerre. Donc, là encore, on a affaire à une société brutalisée, de même que les sociétés européennes pendant la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Première Guerre mondiale étaient des sociétés brutalisées, brutalisées par la violence, par toute forme de violence, par la dissolution aussi du tissu économique et du tissu social et toutes les formes que cela engendre.
Alors, Mohamed Ali Attassi, comment s'exprime cette terreur d'État en Syrie, notamment au début des années 2000, lorsque vous signez cette fameuse pétition des 99 ?
Oui, mais avant, j'aimerais bien revenir à l'introduction pour dire que la violence, comme vous l'avez présentée, oui, elle fait partie du quotidien de notre région, y compris la terreur de l'État, mais je pense que le Proche-Orient, elle n'est pas extérieure au monde. C'est bien que Loulwa vient de rappeler la Première, Deuxième Guerre mondiale, mais aussi les camps de concentration, mais aussi, pas si loin que ça, toute la guerre civile au cœur de l'Europe avec la Bosnie. Voilà, alors c'est pas quelque chose qui est unique au Proche-Orient, c'est quelque chose qui est lié à la relation internationale, au déséquilibre, à le non-respect de certains lois internationaux, la Charte des Nations Unies, et puis les droits des peuples de vivre dignement en liberté avec des régimes qui respectent le minimum des droits de l'homme. Mais on n'est pas unique par rapport à la violence. Par rapport à l'an 2000, non, en fait, je sais pas, c'est très intéressant, je sais pas, vous me rappelez quelque chose par rapport à la pétition 99, je suis un parmi 99, il y a très très longtemps, dans le passé, c'est l'an 2000, c'était la mort de Hafez al-Assad, la rivière de Bachar. À l'époque, il y avait un certain espoir que quelque chose peut changer. C'était clair pour nous que c'est devenu une république héréditaire. C'est le père qui a transmis le pouvoir à son fils. Et il y a eu beaucoup des intellectuels, des hommes politiques, des opposants, des dissidents qui ont levé la voix pour dire il faut démocratiser. C'est la seule façon de sauver la Syrie. Il faut profiter de la mort de Hafez al-Assad pour ouvrir le pays, pour ouvrir l'espace politique. Malheureusement, ce message-là, cette pétition n'était pas entendue par le gouvernement, par Bachar al-Assad lui-même. Et aujourd'hui, on paie les résultats de ce qui s'est passé depuis 50 ans, mais surtout avec la mort de Hafez al-Assad et l'arrivée de son fils.
Voilà. Mais en 2011, c'est un peu le même scénario finalement qui s'est joué, c'est-à-dire qu'il y avait une révolte qui n'était pas du tout une révolte ni religieuse ni de quelque nature que ce soit. C'était une révolte sociale et une révolte pour plus de liberté et de démocratie. Et ce message-là n'a été entendu ni à l'intérieur, ni peut-être à l'extérieur de la Syrie.
Oui, malheureusement, cette révolution syrienne faisait partie des soulèvements des peuples arabes, ce printemps arabe. C'est commencé en Tunisie au bout de quelques mois. C'est beaucoup de pays arabes et beaucoup des peuples qui sont soulevés pour demander de liberté, de dignité et de justice. Et les Syriens, ils ont attendu jusqu'au... Et je pense que c'était le dernier pays qui a rejoint les Égyptiens, les Yéménites, les Tunisiens, parce qu'on craignait justement la répression du régime syrien et on savait déjà depuis les massacres de Hama à quel point ce régime peut être vraiment violent. Ce qui a caractérisé les soulèvements populaires en Syrie les premiers 6 mois, c'était justement le côté pacifique, les revendications démocratiques. Et malheureusement, le régime a répliqué, a répondu avec le feu, le sang. En août 2011, il a fait entrer son armée à Hama après des manifestations, des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et depuis, voilà, il a réprimé. Les Syriens, dans beaucoup des endroits, des villages, étaient forcés à porter les armes pour se défendre. Et la révolution s'est militarisée. Et le régime a utilisé tous les moyens, y compris le bombardement et la force aérienne, pour réprimer. Il a libéré les islamistes salafistes qui ont aussi repris les armes. Et il y a eu ce phénomène de radicalisation, de islamisation du révolte du peuple syrien. Et aujourd'hui, on peut voir à quel point la Syrie est devenue un terrain de jeu des nations. Le grand absent de ce qui se passe en Syrie, c'est le peuple syrien. Et il n'est pas pris en compte. On fait parler des armes aujourd'hui. Il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a le régime syrien. Il y a aussi beaucoup de groupes djihadistes qui sont supportés par d'autres puissances régionales. Et c'est très difficile aux Syriens, à la société civile, aux gens ordinaires, de faire écouter leur voix. Les Syriens, ils ont payé un prix très 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 élevé et c'est très difficile de leur emmener encore une fois de vivre sur un régime autoritaire, sans espoir, sans qu'on voit la fin du tunnel.
Alors puisqu'on parle de terreur, n'y a-t-il pas aujourd'hui avec Daesh un degré supplémentaire de terreur franchi? Car ce ne sont pas seulement les libertés publiques qui sont atteintes, mais aussi les libertés individuelles, les convictions personnelles et finalement la confiance donnée aux autres qui permet en principe la vie en société. Est-ce que ce n'est pas ça, ce nouveau degré, Loulouha Al-Rachid?
Alors, juste avant de répondre précisément à la question de la violence engendrée par Daesh ou induite par l'éruption du phénomène de Daesh, je pense qu'on ne soulignera jamais assez ce dont vient de parler Ali, c'est-à-dire que cette violence, elle n'a rien de consubstantiel au Proche-Orient, elle n'a rien de consubstantiel aux sociétés arabes. C'est une violence politique, c'est une violence qui est la traduction de déséquilibre, de dysfonctionnement à la fois propre à ces sociétés-là, de dysfonctionnements qui sont nés de plusieurs décennies de dictature, de régimes qui ne toléraient aucune forme de dissidence en leur sein, dans leur société, et elle est aussi le résultat de plusieurs décennies de collusion et d'appui extérieur dont ces régimes ont pu bénéficier, notamment de la part des puissances occidentales.
Si c'est l'époque coloniale, c'est aussi la présence de l'État d'Israël, et c'est aussi les peuples de cette région-là qui ont payé le grand prix des crimes qui étaient commis contre les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Palestiniens, c'est les victimes des victimes, mais oui, on a payé le prix. C'est-à-dire, cette violence-là, elle n'est pas seulement liée au Proche-Orient, au peuple de cette région. On partage même la responsabilité.
D'ailleurs, lorsque je pose la question à mes collègues historiens qui travaillent sur le Proche-Orient, leur réponse consiste à dire que cette violence aujourd'hui, le niveau de violence qu'on voit se déployer sous nos yeux n'a rien d'exceptionnel. Il est même très en dessous des niveaux de violence qu'a pu connaître l'Europe dans la première partie du XXe siècle. Donc ça, c'est la réponse des historiens qui disent effectivement, peut-être 500 000 de victimes en Syrie, ce n'est rien en comparaison avec ce qu'on a pu voir au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on parle des déplacements de population, de l'exode, de la fuite, de presque... Je ne sais pas, Ali, je parle sous le contrôle de Ali, peut-être 10 millions de Syriens auraient quitté le pays. Ce n'est rien en
déplacés
comparaison,
ou
déplacés, ou sont déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce n'est rien en comparaison avec ce que des historiens ont appelé le continent barbare, c'est-à-dire tous ces déplacements de population auxquels on a assisté au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est rien.
Non, si, c'est beaucoup pour les Syriens, mais peut-être ce n'est rien si on veut comparer avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais encore une fois, pour revenir à l'idée de que le Proche-Orient, c'est
une théâtre. Une zone violente, intrinsèquement violente, et condamnée à la destruction.
Je veux dire, il y a une responsabilité internationale par rapport à ce qui s'est passé et se passe aujourd'hui. Je pense que si ces régimes, et en particulier le régime syrien, massacrent son peuple, ils le massacrent aussi avec des armes qui sont vendues par la Russie. L'arme chimique qu'il a utilisée à plusieurs reprises contre son peuple, ce n'est pas l'invention de peuple syrien ou de Proche-Orient. C'est une arme qui a été utilisée malheureusement aux Premières Guerres mondiales et même après. Et alors il y a toute une responsabilité qui nous réunit, et aujourd'hui le preuve aussi que finalement quand les Syriens, ils étaient forcés à quitter leur pays, ils sont allés vers l'Europe, et tout le monde est responsable, tout le monde est concerné. On peut pas dire c'est une violence qui est liée à cette région-là. Bien entendu, on a, comme la loi vient de dire, c'est des sociétés qui étaient violentées par les régimes autoritaires, mais à quel point ils étaient des sociétés patientes, qu'ils ont essayé de lutter en douceur, mais avec force, pour défendre leur liberté, pour revendiquer un minimum de justice. Et ils ont même, au bout des premiers 6 mois, par exemple, les Syriens, mais littéralement, ils recevaient des balles dans les torses et sans porter les armes, et en pensant que ça peut changer quelque chose par rapport au monde extérieur, par rapport... Ils n'ont même pas obtenu une no-fly zone. Et le régime, même avec ce qui s'est passé en 2013, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis, ils ont réussi à faire signer le régime un traité pour le désarmer de ses armes chimiques suite à l'utilisation de ses armes contre les habitants du Ghouta. Mais finalement, il a continué de massacrer et tuer avec les barils. C'est-à-dire, c'était presque en donner une autre vie au régime, en signer un contrat ou un traité avec lui pour le désarmer de ses armes chimiques, mais on lui laissait les moyens d'aller bombarder, d'utiliser les barils contre sa population. Aujourd'hui, il y a 10 vétos russes pour défendre le régime syrien au Conseil de sécurité.
La violence de Daesh, est-ce qu'on est face à une violence d'une toute autre nature ? Est-ce qu'on change de niveau de violence ? Est-ce qu'on change d'échelle ou pas ? La question est extrêmement importante. Je crois que la violence de Daesh nous choque profondément. Il est vrai qu'elle a un côté extrêmement intrusif. Elle entre dans l'intimité des gens, elle leur dicte une conduite dans leur vie intime. Elle est choquante, elle nous a choqués par les décapitations, les personnes que l'on jette du haut des immeubles, par cet ordre moral qu'on veut imposer par la force et par la cruauté à des populations qui sont sans défense face à cet ordre. Je crois que c'est une violence qu'il faut comprendre comme une violence de type révolutionnaire, comme une violence qui cherche à imposer un nouvel ordre à la fois moral, social et politique. Et c'est en cela qu'elle diffère de la violence, peut-être des niveaux de violence que l'on a connus sous les régimes autoritaires qui l'ont précédée. Elle est révolutionnaire, elle se justifie par l'impératif de faire table rase d'un passé qui était jugé d'abord non conforme aux préceptes de l'islam, mais qui était aussi perçu comme un passé de soumission à un ordre colonial qui a été imposé à l'ensemble de la région, qui l'a découpé en états plus ou moins factices, plus ou moins artificiels, plus ou moins viables. Et aujourd'hui, c'est une violence de refondation. Donc elle a quelque chose d'éminemment moral et révolutionnaire.
Mais comment faire aujourd'hui pour rétablir un état de droit dans cet espace qui a été victime de cette terreur ?
Il ne s'agit pas d'un rétablissement. L'état de droit n'a jamais véritablement fonctionné dans cette région depuis l'ère des indépendances, depuis la création de ces états. Ou alors, nous avons eu des parenthèses plus ou moins libérales.
L'Irak dans les années 60 était
L'Irak dans les années 60 n'était pas un état de droit, loin de là. En revanche, on a pu avoir des expériences que les historiens ont qualifiées d'expériences libérales, que ce soit par exemple la période monarchique en Irak ou peut-être l'expérience parlementaire en Syrie, mais on était loin d'avoir des états de droit.
C'était plus. Même en Europe, dans les années 50, il n'y avait pas un état de droit comme on connaît aujourd'hui. C'est un processus et je pense de parler qu'il n'y a jamais un état de droit dans cette région, on risque de tomber dans une sorte de généralisation en disant que voilà, on n'est pas prêt, il n'y a pas une tradition d'un état. Non, je pense, ces peuples-là, depuis l'époque coloniale, mais même après, ils ont payé des prix très chers pour leur indépendance, mais aussi après pour avoir un minimum d'égalité et de liberté. Quand je regarde les Syriens ou même les Égyptiens, les Tunisiens, c'est pas une question d'avoir une tradition ou pas, c'est aussi une question de lutte, c'est un processus. Ils ont commencé quelque chose, ils ont payé des prix très chers. Et après toute cette souffrance, c'est très difficile de le faire accepter encore une fois, les régimes dictatoriaux, ou de dire voilà, il faut attendre, c'est pas prêt encore, l'état de droit. Ça fait partie de la nature des choses aujourd'hui, que ce soit en Syrie ou en Afrique noire ou en Amérique du Sud, vivre dans un état où on peut élire des représentants politiques qui nous présentent, vivre dans un état où il y a good governance, où il n'y a pas de corruption, vivre dans un état où vraiment on peut, il y a une alternative au pouvoir, ça fait partie des droits universels des êtres humains.
Les gens peuvent recevoir des armes pour se combattre, donc ils peuvent aussi recevoir un droit de vote pour exprimer la démocratie, c'est ce que vous voulez dire?
Mais bien entendu, en fait, ça, c'est des gens, en plus, quand ils ont eu le droit d'aller voter, d'aller s'exprimer à travers les urnes, le président égyptien Morsi, qui présentait justement le Frère musulman, il était élu avec 51%, il n'était pas élu avec 99%. Et ça dit beaucoup de choses aussi, parce qu'il y a eu 49% qui ont voté contre. Et c'était la première vraie expérience démocratique du peuple égyptien. Alors, et il fallait attendre, il fallait justement, je ne crois pas que le projet de Morsi et le projet de Frères musulmans dans son état actuel peut répondre aux besoins des peuples. Mais il fallait les laisser exercer le pouvoir et il fallait les renverser à travers les urnes, pas à travers un coup d'état fait par des militaires. On revient au point de départ et les gens militaires et les généraux, ils n'ont même pas la solution à nos problèmes, ni économiques ni politiques.
Merci à Mohamed Ali Atassi, journaliste et militant syrien des droits de l'homme. Merci également à Loulouwa Al-Rachid, enseignante-chercheuse spécialiste du parti Baas en Irak. Avant de se quitter, quelques notes de musique d'Imhotep.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Ce nouveau numéro d'Orient Hebdo a été réalisé par Mathias Golchani et Bertrand Auclair en public au Théâtre de la Crie à Marseille à l'occasion des 24e rencontres Averroès. Vous pouvez la réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.